Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans l'Amérique. Vous, Eric Manelakiza avec vous sur VOA Afrique. Michel Joseph assure la mise en onde. Jeudi à New York, des avocats et des experts ont présenté les résultats des recherches et des enquêtes en cours sur les personnes responsables d'une campagne de xénophobie et de nettoyage ethnique visant les Tutsis congolais, les Banyamulenge et les Hema. Les panélistes ont aussi souligné la responsabilité de la communauté internationale dans la prévention de ces crimes et la protection des civils. Nous en parlons dans un instant avec nos invités en ligne, Dr Félix Ndahinda, chercheur et consultant sur les conflits de paix et la paix et la justice dans les grands lacs d'Afrique. Félix, bonsoir. Félix, bonsoir, vous m'entendez?
Je sens toi.
Oui, bonsoir. Nous sommes
bonsoir, Eric.
Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique. Et vous, nous sommes en ligne avec aussi Maître Bernard Minguin du barreau de Bruxelles. Il fait partie du collectif des avocats des parties civiles. Maître Minguin, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur Boyana, et bienvenue dans l'Amérique. Et vous, Maître. Docteur Boyana Koulibaly, chercheuse sur le langage du conflit et sur la prévention des crimes d'atrocité de masse. Je commence avec Boyana. Qu'attendez-vous de l'opinion américaine et internationale parce que vous essayez d'attirer leur attention sur ces crimes en RDC?
C'est un appel à une action imminente. En effet, nous sommes ici face à une impasse où les Hema, les Banyamulenge et les Banyarwanda en Ituri, au sud et nord Kivu, font face à une situation d'urgence extrême et sont victimes d'une discussion interminable et d'un brouillage de la situation par des acteurs politiques qui profitent en fait du populisme ambiant à l'approche des élections présidentielles, mais également par des pseudo-chercheurs et experts dont le conflit en RDC est un fonds de commerce et qui, malheureusement, eux, offrent une analyse basée sur une sorte d'équilibrisme de perspective qui, au fond, retarde une résolution du problème d'urgence, notamment par rapport à la perte de vie basée sur la xénophobie contre ces communautés. Et ces pseudo-experts finissent par donner un récit faussé aux institutions internationales qui sont censés agir dans ce type de situation. Maintenant, cette situation dure depuis des années, mais depuis environ juin de l'année dernière, l'ampleur de la violence contre ces communautés a exponentiellement augmenté, comme cela a été constaté dans les déclarations faites par la haute commissaire des droits de l'homme, Michelle Bachelet, la sous-secrétaire générale, Alice Ngaitou, mais également le groupe des experts dans leur dernier rapport. Donc nous cherchons à dénoncer cette impasse et cette situation d'urgence, et à faire appel à une intervention concrète et imminente des institutions internationales, dont l'ONU et son Conseil des droits de l'homme, mais aussi la Cour pénale internationale, afin de lancer une investigation sur les crimes odieux, comme vous avez indiqué, commis contre ces communautés. Et ceci se ferait par la création d'une commission d'enquête internationale, ainsi que par la nomination d'un rapporteur spécial. Et à nouveau, ceci est en réponse à une absence de réaction et de recours au niveau national.
Oui, vous soulignez la responsabilité de la communauté internationale et ses institutions, mais où est le rapport avec ce qui se passe justement en RDC?
D'accord. Alors, effectivement, le rapport est que nous sommes ici dans une situation identique à 1994. le même acteur de diffusion de la haine et de la violence contre les Tutsis qu'on a vu en 1994 est présente à l'Est RDC. Donc il s'agit de FDLR. Cet acteur a développé son influence dans toute la région de l'Est de la RDC et a en quelque sorte contaminé par cette idéologie génocidaire non seulement les autres groupes armés qui commettent des violations des droits de l'homme, des massacres, mais également l'armée et la police nationale et la société civile, dont la Lucha par exemple. Nous avons également une prolifération des discours de haine, comme en 1994, et c'est plus grave d'ailleurs, car il ne s'agit plus seulement de la radio, mais aussi des plateformes multiples disponibles, telles que les médias sociaux, qui relaient ces discours de haine localement et au niveau international. Nous avons également la présence d'une mission de l'ONU comme en 1994, et malgré cette présence de 20 ans, on n'arrive pas à stopper ces crimes d'atrocité, ni la crise de déplacement des réfugiés. Et pour finir, nous avons aussi une présence de mercenaires qui démontrent que l'État congolais est complètement absent et impuissant face à cette situation. D'où l'importance de cette responsabilité collective, notamment une réaction du Conseil de sécurité imminent qui devrait faire réagir les États membres et parvenir à une résolution pour établir une enquête sur ces crimes d'atrocité qu'on constate en Ituri contre les Hema, au sud Kivu contre les Banyamulenge et au nord Kivu contre les Banyarwanda, que tout le monde voit. C'est visible sur les médias sociaux. Et une fois de plus, les rapports, les différents rapports et les déclarations de l'ONU l'ont démontré.
Merci Boyana pour vos explications. Je me retourne maintenant vers Maître Menga. Vous représentez les parties civiles, Maître, qui sont-elles?
Mais écoutez, ce sont les victimes. C'est-à-dire que nous avons été contactés par des familles, par des habitants de Minembe, par des Tutsis du Nord Kivu et par les communautés Hema du Nord Kivu, de l'Ituri, parce que toutes ces communautés, aujourd'hui, et ça fait déjà un certain temps d'ailleurs, sont victimes de ce qu'on peut véritablement appeler un processus d'épuration ethnique à vision génocidaire. Et dès lors, il y a une urgence. Et ce n'est pas une question de travailler sur un passé ou d'envisager des actions à long terme. C'est l'urgence aujourd'hui qui commente l'action. Et c'est pour cela que nous avons été consultés.
Et pourquoi vous vous limitez seulement à des Tutsis congolais, des Banyamulenge et des Hema?
Mais écoutez, d'abord, sachez que c'est notre mandat. Moi, je suis avocat. Un avocat est limité par les termes du mandat qui lui est confié. Et c'est ces communautés-là qui nous ont appelés. C'est elles qui nous ont donné mandat. Et dans l'analyse que nous faisons aujourd'hui, c'est celles qui sont les plus touchées. Je ne parle pas des déplacés de guerre, qui sont évidemment des victimes importantes dans ces opérations. Je ne parle pas des victimes de bombardements, qui sont aussi victimes. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour l'instant, mais le point focal, le point central pour lequel nous sommes consultés, c'est ça. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Prenons l'exemple des Hema aujourd'hui. Les villages sont brûlés. Les villages des Hema sont brûlés. Les gens sont torturés, tués tous les jours. J'ai des photos, des vidéos qui sont insoutenables. Nous avons le Conseil de sécurité qui dépense le plus d'argent dans une mission à travers la MONUSCO. Savez-vous qu'aujourd'hui, les Hema me disent qu'il n'y a pas de refuge créé par la MONUSCO pour les victimes de ces exactions? Alors moi j'en appelle aujourd'hui simplement à la responsabilité individuelle de Madame Bintou Keïta, la patronne de la MONUSCO. Quand est-ce que vous allez créer des refuges où les gens pourront se réfugier? Rien que ça. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous avons des vidéos où nous voyons une fraternisation entre de la ministre des Co et les FRDC? où ils disent noir sur blanc, qu'ils vont pouvoir liquider un certain nombre de MA parce qu'ils sont couverts par Kinshasa. Alors je me tourne vers le ministre de la Justice à Kinshasa et je dis, quand est-ce que vous les arrêtez? Voilà l'urgence. Voilà le travail à faire. Il n'y a pas de temps à perdre. Et ce sont des discussions un peu de salon, de gens qui ne sont pas dans la vie de tous les jours, que de continuer à dire, est-ce que vous prenez plutôt parti pour ceci ou pour cela? Non. La question vitale, c'est arrêter un processus génocidaire qui est en cours, dont sont victimes les MA. Je ne parle pas des Tutsis du Nord. Je ne sais pas si on se rend bien compte qu'au moment où je vous parle, il y a des camions qui ont emmené un certain nombre de personnes, soi-disant Tutsis, peut-être liées au M23, on ne sait pas, qui sont partis de Saké. On ne sait plus les tracer, on ne sait pas où ils sont. Où sont ces jeunes? Je ne vous parle pas des jeunes Banyamulenge qui essayent de se faire enrôler et qui se font battre à l'entrée des centres d'enrôlement pour les élections. C'est ça l'urgence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Et sur ce plan-là, excusez-moi de parler ainsi et brutalement, il y a une action judiciaire, une action policière à faire pour restaurer l'autorité de l'État. Il y a une énorme responsabilité de la communauté internationale. On est dans un silence, on tue.
Félix Dahinda, vous faites vos recherches sur le terrain. Que vous révèlent vos recherches d'abord, et puis Boyana parlait tout à l'heure d'une enquête internationale, Maître Menguin l'a répété. Faut-il étendre cette enquête sur d'autres communautés? Et les vidéos dont parlait Maître Menguin tout à l'heure, est-ce que ce sont des vidéos vérifiées? Parce qu'il se passe beaucoup de choses sur la toile.
Merci beaucoup pour la question. Et très importante, évidemment. Deux choses, évidemment. Dans ces dernières années, je me suis plus focalisé sur les dynamiques du discours de haine. Et j'ai publié des articles. On a un processus qu'on doit suivre quand on fait des recherches, qu'on doit les faire agréer par la communauté académique. Et justement, parce que je sais qu'il y a deux processus importants qui se passent. L'un, c'est la prolifération du discours de haine. Et l'autre, c'est différentes sortes de manipulations de l'information qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment toujours un souci dans ces genres de contextes d'être très focalisé et de toujours savoir trier le vrai de la manipulation, si vous voulez. L'information vraie et la réalité de la manipulation. Dans le contexte de mes recherches, d'abord, dans ces dernières années, je me suis plus focalisé sur le sud, qui le discours de haine. Ça descend aux rwandophones, les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu, ou Banyarwanda en général, parce que ça dépend de ce que vous trouvez dans les matériaux que vous analysez. Et il est clair que, et c'était la fin de votre question, il est clair que dans le contexte congolais où plus ou moins à différentes époques de l'histoire de ces pays, les gens souffrent depuis l'indépendance du pays à travers différentes vagues de guerre. Il est clair que toute la population congolaise souffre d'une manière ou d'une autre. Et surtout ces 30, plus ou moins 30 dernières années. Mais il est clair aussi qu'en se focalisant sur l'analyse du discours de haine et des théories de complot, que les communautés qui parlent Kinyarwanda ou Kinyamulenge, les Banyamulenge du Sud Kivu et les Banyarwanda du Nord Kivu, et ce langage commence à de plus en plus à s'étendre sur des EMA, sont des légitimés dans leur identité congolaise. Le discours de haine qui se focalise contre ces communautés les délégitimise dans leur congolité, si vous voulez. Et cette dynamique d'exclusion représente une source d'une victimisation particulière dans ce contexte où une grande population de l'espace congolais souffre. Et dans ce sens, une partie de votre question était de savoir s'il faut se focaliser sur d'autres victimes, s'il y a une commission, s'il faut se focaliser sur toutes les communautés ou d'autres communautés. Il est important de faire la part des choses. Il y a des crimes généraux qui peuvent toucher des membres de toute communauté. Et il y a des crimes qui ne se focalisent que sur certaines communautés qui sont attaquées à cause de leur identité. Dans ces cas, il y a eu déjà dans le passé des enquêtes, je vois toujours dans le contexte congolais, un grand débat qui s'est focalisé sur le mapping report qui couvrait 1993 et 2003. Et cela couvrait plus ou moins la grande majorité d'endroits, même si l'opérationnalisation cherchait souvent de ce rapport ou la médiatisation de ce rapport tend plutôt à être politisée qu'à se focaliser sur son contenu. Mais non, qui est contesté aussi évidemment à travers des débats qui a eu après sa publication ou même avant. Mais cela fait plus de une dizaine d'années, presque 20 ans que ce rapport a été produit, actuellement 20 ans en fait qu'il a été produit, que des crimes se passent encore dans l'espace congolais, que cette dynamique de haine est présente et il n'y a pas eu d'enquête pour les crimes récents qui s'est déroulé. Et surtout pour cette sensibilité particulière des politiques d'exclusion des nationalités, de certaines identités. Et dans ces cas, des enquêtes sont les bienvenues, peu importe la forme. La justice, évidemment, que ce collectif dont parle Maître Mergin, ces démarches sont les bienvenues. Et des enquêtes sont absolument les bienvenues, mais une sensibilisation et aussi une sensibilité quelconque très particulière doit toujours être prise quand on adopte pour faire part de la particularité de ces communautés qui sont victimisées, qui sont poursuivies, qui sont martyrisées à cause de leurs identités.
Boyana Koulibaly, le M23 combat dans l'Est congolais. Kinshasa accuse Kigali de le soutenir militairement, mais les autorités rwandaises ont toujours démenti ces allégations. Vous dénoncez des atrocités. Quelle est la responsabilité du M23 dans tout ça?
Le M23 n'est pas accusé d'atrocités contre ces communautés que nous venons de nommer qui sont ciblés à cause de leur origine, leur faciès ou leur appartenance à un groupe qui, en quelque sorte, est un petit peu imaginé, je dirais, dans l'opinion publique. Je pense que le problème du M23 est un problème qui est assez récent dans l'histoire de la RDC. Pendant 10 ans, le M23 n'était pas là et pourtant les atrocités ont été commises. De surcroît, je pense que le problème principal est que on se focalise sur le M23, mais on ne cherche pas à comprendre l'origine du M23, le pourquoi ils sont là où ils sont, qui ils sont. Il ne faut pas oublier que le M23 a établi des requêtes et des demandes qui ont été promises, mais dont les promesses n'ont pas été tenues par les instances nationales, par Kinshasa notamment. Et ces demandes sont très très claires. Le M23 est constitué de jeunes et de moins jeunes dont les familles sont dispersées dans le monde entier, notamment au Rwanda, en Uganda, au Burundi, qui ont besoin de revenir chez eux, mais il n'y a pas une situation de sécurité qui leur permettrait de revenir. Donc le M23 cherche peut-être à trouver une solution, et cette solution-là n'est peut-être pas la solution idéale, mais c'est celle qu'ils ont trouvée. Et effectivement, le M23 est constitué de Congolais, mais ils sont également stigmatisés par la société entière congolaise en tant qu'étrangers. Donc le même stigma qui est prêté aux communautés qui subissent la violence est aussi prêté à ce groupe M23.
Nous parlons de cette conscientisation de l'opinion américaine et internationale pour se préoccuper des crimes d'atrocité en RDC. Félix Ndahinda, je reviens vers vous. Vous êtes venu à New York pour porter votre voix plus loin. Est-ce que ça vaut le déplacement?
Alors, ça vaut vraiment le déplacement, évidemment, parce que toute plateforme qu'on peut trouver pour passer le message, pour dire aux gens que il y a des vrais êtres humains qui sont comme vous et comme moi, qui souffrent aujourd'hui et qui font face à l'indifférence généralisée de la communauté internationale, de la communauté américaine où je suis maintenant, comme avec des images graphiques que nous recevons chaque jour venant de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Quand nous partageons ces témoignages des gens qui ne peuvent pas témoigner par leur propre voix, ça vaut tout déplacement. Si je devais aller sur la planète Mars pour porter le même message, je le ferais. Et c'est très important parce que cette souffrance, elle est réelle. Et moi, je suis basé en Europe, mais aussi en Afrique, mais en Europe, je sais la sensibilité, par exemple, qui existe aujourd'hui face au conflit en Ukraine, qui doit exister et que je soutiens, évidemment. Mais on veut dire aux gens que les êtres qui vivent dans cet terrain-là dont nous parlons sont aussi des êtres humains comme les Ukrainiens et méritent la sympathie, mais aussi l'action de la communauté internationale. Parce que, surtout, face au discours de haine, c'est très important. Et deuxième chose, évidemment, très important pour moi, étant ici en Amérique, les outils qui sont utilisés pour transmettre ce discours de haine sont créés ici en Amérique. Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube surtout, sont des compagnies américaines qui se font ce sont les fusils aujourd'hui. On utilise des fusils et d'autres armes sur le terrain. Mais ces fusils que représentent ces plateformes sont aussi tranchants que les autres. Du coup, nous savons que le discours tue et nous savons que le discours pousse à tuer, et presque littéralement. Et dans ces cas, quand à tuer, mais aussi littéralement quand à pousser à tuer, et nous pensons qu'en portant notre voix ici, il y aura aussi des actions qui doivent être initiées pour tenir ces plateformes responsables de ce qui se passe sur le terrain.
Maître Menguin, pensez-vous que cette démarche entreprise donnera des résultats très rapidement?
Écoutez, moi je ne suis pas un homme qui promet des choses parce qu'ici il y a une dimension qui nous dépasse. La question c'est: est-ce que nous prenons nos responsabilités comme avocats? Nous amenons des preuves. Nous avons par exemple des preuves avec des personnes qui appellent à tuer les Banyamulenge ou à tuer les Rwandophones. Nous apportons des preuves concernant des villages entiers qui sont brûlés. Nous apportons des preuves concernant des tortures qui sont commises à l'encontre de personnes physiques. Après, il y a une responsabilité qui dépasse la responsabilité de l'avocat. Nous faisons notre travail. Après, la responsabilité, c'est la responsabilité de Mme Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO. Est-ce qu'elle fait ce qu'elle doit? C'est la responsabilité des membres du Conseil de sécurité. Ils vont venir à Kinshasa et à Goma du 9 au 12 mars. Vont-ils rencontrer les victimes? Vont-ils protéger les victimes qu'ils vont rencontrer contre des violences ultérieures? Il y a une responsabilité du procureur général à Bukavu et du procureur général à Goma. Il y a une responsabilité du chef de la police à Goma. Est-ce que le chef de la police à Goma peut assumer cette responsabilité dès lors qu'il a appelé la population?
Maître Menguin, il nous reste quelques secondes. On va demander à Boyana Koulibaly pourquoi les Américains doivent s'intéresser à ce conflit meurtrier dans l'Est congolais.
C'est une très bonne question, effectivement, parce que les Américains, enfin les États-Unis, sont un des États membres du Conseil de sécurité, tout comme d'autres pays en Europe et ailleurs. La responsabilité que nous avons en tant que citoyens américains, en tant qu'État membre du Conseil de sécurité, c'est aussi de contribuer à une paix globale. C'est notre rôle. Et dans la situation actuelle, nous avons établi des stratégies pour résoudre ces problèmes d'insécurité en RDC.
C'est ici que nous mettons un point final, malheureusement, à cette édition de l'Amérique et vous. Michel Joseph a assuré la mise en onde, Eric Manéakis à la présentation. Merci à Félix Ndahinda, chercheur et consultant sur les conflits dans les Grands Lacs, Maître Bernard Menguin du Barreau de Bruxelles. Daphné Boyana Koulibaly, chercheuse sur le langage du conflit.